France Culture.
Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore la foi?
Bonjour, vous écoutez France Culture, Jean-Luc Gadreau avec vous pour Solae, ce rendez-vous protestant, émission proposée par la Fédération protestante de France. Alors il y a des mots que l'on prononce souvent mais que l'on peine parfois à habiter et l'unité est sans doute l'un de ceux-là. À l'occasion de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens qui débute aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir le pasteur Pierre Blanza, chargé des relations avec les églises chrétiennes pour la Fédération protestante de France. Avec lui, il sera question de rencontres, de prières, de diversité, mais aussi d'une espérance partagée à l'écoute de cette parole de l'apôtre Paul. Il y a un seul corps et un seul esprit, une seule espérance. Bonjour Pierre Blanza.
Bonjour Jean-Luc.
Alors je le disais à l'instant, vous êtes chargé des relations avec les églises chrétiennes pour la Fédération protestante de France. Concrètement, expliquez-nous, ça consiste en quoi ?
Ça consiste à s'occuper des relations. Les relations à l'intérieur...
Avec les églises chrétiennes.
Avec les églises chrétiennes, celles qui composent déjà la Fédération protestante de France, qui sont assez nombreuses, une trentaine d'églises. Et puis, les relations avec les églises hors de la Fédération, qu'elles soient protestantes ou non, catholiques, orthodoxes, orientales. Alors, ça veut dire que je représente aussi la Fédération dans le cadre du Conseil des églises chrétiennes en France, et aussi un petit peu à l'international, dans la Conférence des Églises d'Europe.
Dans un portrait qui avait été publié dans l'hebdomadaire Réforme, je crois au moment où vous avez reçu votre nouvelle mission, vous disiez être tombé dans la marmite de l'œcuménisme très jeune. D'où vient dans votre parcours personnel et pastoral ce goût pour la rencontre entre traditions chrétiennes ?
Alors ce qui est curieux, c'est que j'ai grandi dans un milieu 100% protestant, tellement 100% protestant que dans mon village, il n'y avait pas d'église catholique, mais il y avait déjà une pluralité d'églises protestantes, darbistes, évangéliques et réformées. Et puis, très vite, j'ai eu le goût de la rencontre avec d'autres et du coup, c'est passé à travers des rencontres comme les clubs bibliques lycéens, et puis les GBU,
derrière,
et puis aussi le mouvement charismatique et un mouvement transverse dans toutes les familles des églises. Et du coup, très tôt, j'ai eu le goût de la rencontre et aussi de ce qu'il y a de singulier chez l'autre, qui est évidemment parfois un peu exotique, mais c'est comme la cuisine, parfois on aime les épices, et je crois que j'aime la cuisine épicée.
Vous aimez ça. Après plus de 25 ans de ministère pastoral, en paroisse, vous avez vécu ce poste comme une forme d'appel. Qu'est-ce qui change pour vous dans la manière de servir l'Église à une posture nationale maintenant ?
Alors, c'est vrai que ça, c'est un grand changement parce que le travail pastoral, c'est un travail de relation vraiment de très grande proximité. Et puis là, on est en proximité, mais avec des églises qui ont des réalités tellement différentes sur le territoire. Certaines sont très implantées depuis longtemps, certaines sont juste naissantes. Moi, je le vis comme un nouveau ministère et un nouveau métier. Et en même temps, il y a toujours au cœur de ce métier l'amour pour la parole de Dieu et la joie aussi de pouvoir partager des temps intenses, notamment des temps de prière. Et c'est vrai que là, dans le domaine œcuménique, la prière, c'est vraiment un creuset de rencontres, d'écoutes partagées. Et j'ai eu l'occasion souvent d'aller prier avec des frères et des sœurs de différentes traditions.
Il y a eu dernièrement les rencontres de Thésée à Paris. Je crois que vous y avez participé, vous êtes intervenu.
Oui, c'était vraiment magnifique d'avoir 15 000 jeunes de vraiment toute l'Europe et même au-delà. Et de pouvoir partager avec eux des questions parfois très, très existentielles et aussi parfois des questions de géopolitique. politique qui s'invite dans, oui, dans nos vies. Et tout cela dans une atmosphère très priante, avec une qualité de silence qui est propre à Thésée, mm-hmm, et qui est aussi un terreau commun. Alors j'étais très heureux de partager ces moments, et notamment avec l'archevêque de Cracovie. On a partagé un atelier sur la charte œcuménique européenne. Et c'était un très beau moment.
Un moment riche. Thésée, il y a quelque temps, et puis là, commence aujourd'hui la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, rendez-vous annuel qui débute donc aujourd'hui jusqu'au 25 janvier, qui existe depuis plus d'un siècle, mais reste quand même parfois un peu méconnue du grand public. Pourquoi est-elle encore importante aujourd'hui, cette semaine, et à quoi invite-t-elle concrètement les communautés locales ?
Je crois qu'elle est plus importante aujourd'hui que jamais, parce que la question de l'unité, elle est vraiment, il me semble, le cœur de... Peut-être que prier pour l'unité, c'est entrer en résistance contre tout ce qu'il y a de comme force de division, de polarisation, de clivage dans notre monde. Alors il me semble qu'aujourd'hui, plus que jamais, il est important de non seulement de parler d'unité, d'agir, mais aussi de prier, parce que tout cela ne se fera pas sans l'action de l'Esprit Saint.
Et d'ailleurs, c'est une semaine qui se vit au niveau national, mais surtout localement, dans les paroisses, avec des rencontres, avec des temps qui sont là proposés pour se retrouver.
Oui, de manière très variée. Parfois, c'est des invitations. Une communauté va en visiter une autre. Parfois, c'est plusieurs communautés qui se mettent ensemble pour préparer un temps de célébration, mais aussi des temps de partage, de conférences. Cette semaine, moi, je vais être à Strasbourg et puis à Orléans, pour animer une journée, pour donner une conférence. Il y a beaucoup de manifestations qui se proposent.
Avec un thème, et le thème de cette année s'appuie sur le verset 4 du 4e chapitre de la lettre aux Éphésiens. Je vous propose d'en faire ce matin notre rendez-vous avec la parole, avec Lydie Jean Théodore qui nous lit ce court verset, mais celui qui précède aussi, pour mieux être dans l'ensemble de ce qui est partagé là dans ce texte biblique.
Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint par la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même qu'il y a une seule espérance à laquelle Dieu vous a appelé.
Alors Pierre Blanza, qu'est-ce que ce texte dit de l'unité chrétienne selon vous, et peut-être aussi de ce qu'elle n'est pas ?
Alors, elle dit, ce texte dit à la fois quelque chose comme un donné reçu. L'unité, c'est le fruit de l'esprit en nous. C'est vraiment le don de Dieu. C'est vraiment ce qui ne peut être arraché par quiconque, puisque c'est Dieu qui le donne. Et en même temps, et c'est étonnant, ça commence par « efforcez-vous », ouais, comme s'il y avait là toute une mobilisation, une exigence de mettre toutes ses forces.
Un travail personnel. Là.
C'est cela. Alors, il me semble que dans ce « efforcez-vous », il y a à la fois une invitation à engager sa vie personnelle, mais aussi de s'y engager communautairement. Et en fait, dans la prière, on s'expose à se laisser transformer, à la fois personnellement et communautairement. Se transformer, se convertir à l'autre, tout ça est inclus dans ce « efforcez-vous ».
Un seul corps, un seul esprit. Comment tenir ensemble cette unité fondamentale et en même temps la diversité parfois un peu déroutante des pratiques, des théologies, des sensibilités, de cet exotisme que vous évoquiez tout à l'heure.
C'est indispensable de tenir les deux ensemble. Mmh. Sinon, on va être dans quelque chose d'uniformisant, de violent, en fait, parce qu'il exigera que l'on se gomme, que l'on s'efface. Oui. Or, précisément, l'unité, elle n'est possible que si cette diversité demeure.
Pas d'uniformité, donc.
Non, en Dieu, il y a aussi de la diversité. La Trinité vraiment la plus belle image que l'on puisse avoir de cela. C'est-à-dire que l'unité, c'est pas quelque chose de statique, c'est relationnel, c'est un mouvement. Et pour qu'il y ait mouvement, il faut qu'il y ait plusieurs partenaires.
Ce texte évoque aussi une seule espérance. Quelle espérance commune peut-on encore vivre ? Qu'est-ce qui peut rassembler les chrétiens aujourd'hui ?
Alors, c'est toujours la même chose. C'est sans cesse le Christ qui nous rassemble. Oui. Et le Christ qui nous dépasse infiniment. Alors, je crois qu'on mesure cela, qui nous dépasse infiniment, quand on est justement avec des frères et des sœurs différents. Parce que du coup, on réalise, ah, mais le Christ, pour lui, c'est aussi cela. Cela le conduit aussi à prier de cette manière-là, ou à agir de cette manière-là. Alors du coup, ça nous oblige à élargir sans cesse notre compréhension du Christ, en même temps qu'on élargit notre compréhension de l'autre. Et souvent aussi, on redécouvre ce qui est notre trésor à nous, ce qui est le propre de notre propre tradition. Souvent, on n'en a pas saisi la substantifique moelle. Quand on le partage avec d'autres, on se connaît mieux aussi soi-même.
Je pense à ce vieux conseil biblique, élargis l'espace de ta tente, affermis tes piquets. Est-ce qu'il y a aussi un peu de ça dans la rencontre de l'autre, une façon de s'élargir soi-même, non pas pour dominer plus, mais peut-être pour grandir, non ?
Ça, c'est possible que s'il y a un mât au milieu et un grand mât qui tienne le tout.
Et là, c'est le Christ.
Et c'est le Christ. Si on enlève ce mât, si on croit que l'unité, ça va se faire juste à nous en poussant avec nos petits bras musclés les piquets de bord de tente, on risque rapidement de se trouver sous une tente écroulée. Mmh. Mais si on met au plus haut possible le Christ, plus au centre de notre tente, alors on se rend compte qu'il y a encore un large espace à découvrir et à ouvrir.
Vous insistez aussi souvent sur la dimension relationnelle de l'œcuménisme, l'expérience de la rencontre avec l'autre. Pourquoi l'unité ne se décrète-t-elle pas justement, mais se construit-elle d'abord dans la confiance, l'amitié, cette prière partagée que vous évoquiez ?
Je crois que c'est la modalité que le Christ a choisie pour venir tisser du lien avec nous. Il a choisi d'être pour nous sur le mode de l'amour filial, de l'amour agapé, de l'amour amitié, de l'amour qui nous élargit. Et du coup, ça passe par la rencontre, c'est vrai, et par le lien.
D'ailleurs, Jésus était toujours en quête de rencontre, d'une certaine façon, sur la route, à marcher et à aller voir ceux qui étaient là autour de lui.
C'est ça. Parfois, il dérangeait. Parfois, il se laissait déranger.
Aussi.
Et je trouve ça assez merveilleux de voir que le Christ est aussi quelqu'un qui se laisse surprendre et qui intègre l'autre dans son propre chemin. Mmh. Alors, ça, c'est pour moi une grande source d'inspiration, parce que parfois, on est de ceux qui poussons pour aller à la rencontre, mais on n'est pas toujours attentif à ceux qui cognent à la porte. Et moi, je suis là et j'ai aussi quelque chose à te dire.
Et puis la rencontre, des fois, n'est pas forcément toujours très agréable au départ, hein. Mais il faut l'accepter, l'accueillir.
Oui, parce que l'important, c'est ce que va devenir la rencontre. Ouais, la rencontre, c'est quelque chose de vivant. Et peu importe d'où on part, l'important, c'est de se mettre en route ensemble, de marcher et de se laisser transformer.
Alors, pour celles et ceux qui nous écoutent ce matin et se demandent peut-être comment vivre concrètement cette semaine de prière, quels gestes simples, personnels ou communautaires pourriez-vous leur proposer pour entrer dans cette démarche d'unité? Je pense à des gens qui appartiennent peut-être à des communautés chrétiennes, mais à d'autres qui sont seuls et peut-être en recherche, en quête. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil ce matin?
Eh bien, vous pouvez déjà passer la porte d'une église proche de chez vous, devant laquelle vous passez sans cesse, sans jamais rentrer, juste pour voir ce qui s'y vit, ce qui s'y passe, à quoi ça ressemble, comment est installé le lieu de prière et le lieu de culte. C'est déjà intéressant. Ouais. Vous pourriez aussi aller chercher sur Internet des chants et des cantiques d'une autre tradition. Mmh. Parfois, on mesure pas aussi le poids de la culture et de la langue. Moi, la première fois que j'ai entendu chanter en arabe des chants chrétiens, évidemment, on entend Allah et on se dit ah mais oui, on peut s'adresser à Dieu en utilisant le mot Allah quand on est chrétien et arabophone. Alors oui, il me semble que aller écouter les autres prières, lire une prière d'une autre tradition, c'est déjà une entrée. Mais il n'y a pas de meilleure entrée que de faire l'effort d'aller rencontrer
l'autre. Mmh. Alors, pas de chronique ce matin, Pierre Blanza, vous avez remarqué, pas de chroniqueur dans le studio, parce que j'ai autre chose à vous proposer, en fait une petite surprise. trois personnes avaient en effet envie de vous parler ce matin. Alors ouvrez grandes vos oreilles, c'est cadeau.
Salut Pierre. Écoute, tu reconnaîtras. Deviens vivante et reste vivante. L'Esprit de Dieu t'invente à tout instant. Reçois chaque jour le don de la nouveauté de Dieu et de tes frères. Oui, dans notre marche vers l'unité, si joyeuse et si difficile, nous avons la chance, toi et moi, d'accueillir la nouveauté dans le visage des autres chrétiens avec qui nous cheminons. C'est un cadeau pour rester vivant. Bonne suite à toi, ta sœur.
Voilà, alors moi ce que j'ai à cœur de dire concernant Pierre et son engagement pour l'unité des chrétiens, c'est que de mon point de vue, il est parfaitement à sa place et qu'il apporte quelque chose d'assez particulier. C'est un chemin de rencontre d'un cœur à l'autre, je dirais, de l'intérieur. Pierre a construit son chemin de foi justement dans la rencontre avec des chrétiens de différents horizons. Et c'est ça qui lui donne, je trouve, un regard particulier et une approche particulière aussi dans le travail œcuménique. Prier avec l'autre, pas simplement s'intéresser à ce qu'il y a de différent en lui, mais plutôt le rencontrer en priant, en méditant la parole ensemble, en s'enrichissant aussi de ce qu'il m'apporte. Je crois que c'est un beau chemin, l'œcuménisme spirituel. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'a permis de découvrir. Je lui en suis infiniment reconnaissant. J'en serai éternellement reconnaissant. Voilà, et je l'encourage à continuer. Merci pour ce que tu apportes.
Si Pierre Blanza était un personnage de l'une des paraboles des évangiles, à coup sûr, il serait l'un des tout premiers serviteurs de la parabole des talents, celui qui reçoit mais tellement de talents. Le ministère pastoral, la théologie, la prédication, la musique, la créativité, la cuisine aussi, l'humour, l'écoute bien sûr, une capacité incroyable à accueillir, l'amitié évidemment. Oh Pierre, t'as tellement de talents. Merci de les partager autour de toi, merci de savoir les faire fructifier. Et merci Seigneur de nous donner de tels serviteurs de ta parole. Ton Église en a besoin pour vivre son unité.
Voilà Pierre, alors, j'imagine que vous les avez reconnus, ces trois amis.
Ah oui, bien sûr, et je suis quasi sans voix là. c'est très émouvant d'entendre ces témoignages dont je me sens vraiment pas digne, mais ça me fait tellement plaisir d'entendre leur voix.
Alors de qui s'agit-il ?
Alors dans l'ordre, Marie-Jo Guichenuit, c'était ma collègue, mon alter ego pour le diocèse de Lyon, à un moment où moi j'étais responsable œcuménique pour l'Église protestante unie et la Fédération protestante de France au pôle lyonnais. Et on a démarré, je crois, notre rencontre et notre collaboration par la prière, justement. Et pas une prière une semaine par an, mais une prière chaque semaine. Où on s'est retrouvés à 2, 3, 4. Et puis aujourd'hui, chaque semaine, il y a plus d'une vingtaine de personnes qui se réunissent gratuitement, souvent d'une dizaine ou d'une douzaine de confessions différentes. Et là, on y a puisé beaucoup de joie et beaucoup de projets ont pu naître de cela. Le Forum chrétien francophone, les voyages unité chrétienne, etc. Beaucoup de choses sont nées de cette amitié et de cette prière très, très simple et très modeste.
Et justement, cette prière, la deuxième personne, cette voix masculine, en parlait, et c'est...
Alors, c'est le pasteur Sylvain Guiton de l'Église évangélique libre d'Avignon, qui était à Lyon, au moment où j'exerçais à Lyon, et avec qui on a une grande et longue et vieille amitié. Mais on s'est retrouvés, là, ces dernières années, notamment autour de textes spirituels qui nous accompagnaient, qui nous fortifiaient. Et c'est avec lui qu'on a créé un petit groupe musical.
Et on va en parler juste après. Mais il y avait une troisième voix, la dernière, quelqu'un qui est venu plusieurs fois déjà dans l'émission.
Alors, c'est Céline Romer, qui est pasteur de l'Église protestante unie, mais qui est aussi professeur de Nouveau Testament. Avec elle aussi, on
c'est une amie.
Une longue amitié. Ouais. On a fait nos études ensemble. Et j'ai toujours été au bénéfice de sa lecture, toujours très, très affûtée, mais surtout... toujours très pleine d'émerveillement. Ouais. Céline, c'est quelqu'un qui se laisse interpellé aux profondeurs de sa vie par la parole et qui arrive à le communiquer d'une manière assez extraordinaire. Alors j'étais très heureux d'entendre sa voix et de savoir que on continue à avoir des liens aussi forts.
Et que vous êtes apprécié, Pierre. C'était aussi une manière de le dire. Alors vous venez de l'évoquer, vous êtes membre du groupe Coram Deo avec justement Sylvain Guiton, un groupe qui a produit un album qui met en musique des textes de grandes figures de la spiritualité chrétienne. Pourquoi ce dialogue entre traditions spirituelles vous semble-t-il fécond aujourd'hui ?
Parce que, en tout cas, nos vies sont faites de ça, de paroles qui nous ont touchées. Et il y a des paroles particulièrement fortes qui se trouvent dans plein de contextes et de traditions différentes. Et des paroles qui viennent au secours de notre manque de paroles, je dirais.
Et la musique, justement, joue un rôle dans votre foi, j'ai l'impression. Vous êtes saxophoniste, notamment?
Ben oui, parce que la musique, ça permet d'aller au-delà des mots, ou en tout cas de leur donner une pleine ampleur. Le saxophone, c'est un instrument qui est comme la voix humaine, c'est-à-dire que ça peut être aussi doux, aussi fort, aussi éraillé, aussi cassé, parfois, que notre voix. Et il me semble aussi, la force de la musique, c'est de mettre du silence. Et parfois, il faut peu de silence pour faire sortir un mot. Mais quand le silence est là, alors il donne tout son nectar. Mmh. Et moi, j'apprécie aussi de pouvoir partager ces textes musicalement parce qu'on les retient mieux aussi.
Oui, c'est vrai.
Et Marie Géo reprenait le texte Vivant tout à l'heure. Mmh.
Est justement dans l'album.
Qui est dans l'album aussi. Et oui, ça aide de pouvoir s'en souvenir à des moments où on en a besoin, des moments où c'est un peu plus dur. Alors, la mémoire de la musique, la mémoire du chant vient à notre secours. On le voit parfois avec les personnes très âgées.
C'est vrai qu'ils se souviennent, qui n'ont pas la mémoire pour plein de choses et qui réagissent à des vieux cantiques. Mmh. Je vous propose d'en écouter un extrait de cet album. Alors, un autre titre que celui que nous évoquions, là, c'est « Je me battrai ». Peut-être un très court mot de présentation de ce texte.
Alors, c'est un texte qui est né du fondateur de l'Armée du Salut, William Booth. Et c'est un texte de combat contre l'injustice. Moi, je trouve que finalement, vous avez bien fait de choisir ce chant, parce que il y a aussi quelque chose de révoltant dans la désunion des chrétiens, la désunion des églises. Et pour moi, oui, je volontiers pour être aussi à me battre pour qu'on arrête de se diviser, de se déchirer.
Tant qu'il y aura des femmes qui pleurent, je me battrai. Tant que des enfants auront faim, je me battrai. Tant que l'alcool tiendra des hommes dans ses liens. Tant qu'une fille vendra son corps, je me battrai avec toi, Seigneur, contre la détresse, contre la misère. Je m'élèverai contre la terreur, la peur et la haine, le doute et la lassitude. Je me dresse avec toi.
Coram Deo avec le titre « Je me battrai ». Alors l'unité n'est peut-être pas ce que nous fabriquons, mais ce que nous recevons quand nous acceptons de prier, d'écouter, de marcher ensemble, comme nous le proposait Pierre Lanza. Merci à vous Pierre, merci beaucoup.
Merci à vous, c'était des beaux cadeaux.
Merci pour cet échange et que cette semaine de prière nous aide à laisser résonner au cœur de nos différences une même espérance. Et nous terminons avec une petite page culturelle, trois livres et un film. Et justement, il y a des livres qui arrivent comme un écho prolongé à une parole entendue. Après avoir parlé d'unité, d'espérance, de fidélité à l'évangile dans un monde traversé par les fractures, eh bien ce livre nous ramène à une page plus sombre, mais fondatrice de notre histoire protestante. Camisard, 1702, la mort de l'abbé du Chayla aux éditions Bleu Autour. Le peintre et dessinateur Éloy Vallat ouvre une trilogie puissante consacrée consacré au trouble des Cévennes, un splendide poème graphique sombre, habité, qui nous plonge au cœur de la révolte camisarde, là où croire devient un acte de résistance. Et Christelle Bernat, titulaire de la chaire d'histoire du christianisme à l'époque moderne, à la faculté de théologie protestante de Montpellier, replace pour sa part le poème dans le contexte. Toujours en écho à notre thématique du jour, un court essai très intéressant de Waltraud Verlaguer, médecin, théologienne protestante, que j'ai eu déjà le plaisir de recevoir dans l'émission pour l'un de ses précédents ouvrages. Ce dernier se nomme « Quand la Vierge commence à lire » et avec pour sous-titre « La lecture féminine au miroir de Marie ». Sorti aux éditions L'Harmattan, Waltraud Verlaguer retrace l'histoire des représentations mariales et plus généralement des femmes à travers l'histoire et ainsi, dans le miroir de Marie, nous découvrons des femmes. Et chez Olivier Tan, enfin, du révérend docteur Paul Avis, prêtre et théologien anglican, vers l'Église une, écuménisme et théologie réconciliatrice. Ce livre sort ce 22 janvier et Paul Avis y analyse au scalpel les divisions et les dialogues œcuméniques, invitant par là même à réinvestir théologiquement la question de la reconnaissance mutuelle et à imaginer une communauté chrétienne à la fois réconciliée et réconciliatrice. Et puis enfin un film, sorti mercredi dernier en salle, que je souhaitais mettre en avant ici dans Soleil.
Furcie, des libres, esclaves maintenus par la cupidité des hommes.
J'ai le droit de circuler librement, je vais aller demander au procureur du roi. Silence.
Furcie devrait être libre, car sa mère a été affranchie il y a des années.
Cet acte d'affranchissement, même s'il existe, c'est qu'un bout de papier.
Il dissimulait aussi des liens secrets avec la préceptrice Virginie Béga.
Furcie se retrouve dans la position d'accusé alors qu'il vient réclamer sa liberté.
Les esclaves n'attaquent jamais leur maître en justice.
Un esclave n'est pas une personne. C'est un meuble.
Il est des combats qui se mènent sans armes, mais avec une ténacité qui force le respect. Celui de Furcie en fait partie, né au début du 19e siècle sur l'île Bourbon, aujourd'hui la Réunion. Furcie aurait dû être libre, sa mère avait été affranchie. Pourtant, il est maintenu en esclavage. Pendant plus de 25 ans, il va engager un combat judiciaire acharné pour faire reconnaître ce droit fondamental. Non pas pour se venger, mais pour que la loi dise enfin la vérité. Abdelmalik, l'artiste engagé ici réalisé, choisit de raconter cette histoire avec une grande sobriété. Sa mise en scène refuse le spectaculaire et laisse toute la place au temps long, à l'usure, à l'obstination d'un homme face à un système injuste. La réalisation épouse ainsi le combat de Furcie, patiente, digne, inflexible. Ce film parle de justice, bien sûr, mais aussi de foi en l'humain, de cette conviction profonde qu'aucune société ne peut tenir si elle nie la dignité de certains de ses membres. Difficile ici de ne pas entendre l'écho biblique d'un Dieu qui libère et qui rappelle que nul ne peut s'approprier la vie d'un autre. Furcie né libre, avec en plus d'excellents comédiens dont Makita Samba, Romain Duris, Anna Girardot ou encore Vincent Macaigne, en salle donc depuis ce mercredi. Et nous finissons ce soleil avec le saxophone de John Coltrane, Love Supreme, partie 4, psaume. Pour vous, Pierre Blanza, un peu pour moi, et puis surtout pour toutes celles et ceux qui nous écoutent ce matin. C'était Soleil, le rendez-vous protestant sur France Culture, proposé par la Fédération protestante de France, présenté par Jean-Luc Gadreau, réalisé par Thomas Jost, et avec Manuel Couturier à la prise de son. Cette émission est à réécouter cette semaine sur le site protestantpluriel.org, à tout moment sur celui de France Culture, et en podcast au moyen de l'application Radio France. À la télévision ce matin sur France 2, dans le même esprit que cette émission ce matin, de 9h30 à midi, matinée pour l'unité des chrétiens. Le plateau et la cérémonie prendront place à la cathédrale arménienne apostolique des saints traducteurs de Marseille. Et sur France Culture, vos programmes dominicaux continuent avec Talmudique, présenté par Marc-Alain Wachnin, juste après vos informations de 9h. Et moi, je vous dis très bon dimanche à chacune et à chacun.